I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir une maison de luxe parisienne qui allie savoir-faire et artisanat depuis des décennies. C'est au début du XXe siècle que l'histoire de la maison Yves Salomon prend racine. Historiquement, maison de fourrure, Yves Salomon propose aujourd'hui deux collections de prêt-à-porter par an, avec pour seul souci constant, allier confort et qualité. Rencontre avec son fondateur. Bonjour Yves Salomon.
Bonjour.
Alors, c'est votre grand-père qui a créé l'histoire de la maison, ça remonte en Sibérie, c'est ça?
Alors, mon grand-père est parti de Sibérie en 1910 et il a démarré cette activité de fourrure parce que en Sibérie, en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il s'ennuyait un peu, il était exilé et pour des raisons politiques. Et donc, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, pourquoi pas la fourrure? Voilà, ça, c'était le début. Puis, la dynastie a commencé comme ça.
Là, vous en êtes à la quatrième génération avec votre fils. Mais avant, il y a eu votre père qui a repris le flambeau. Enfin, ensuite, il y a eu votre père qui a pris le flambeau. Qu'est-ce qu'il a... Il a apporté un petit twist supplémentaire.
Donc, chaque génération a essayé de changer la culture de l'entreprise. Bon, mon grand-père, lui, c'était le visionnaire, le négoce des pots. Mon père, c'était d'apporter de nouvelles matières.
C'était dans les années 60, c'est ça, votre papa?
Dans les années 60, de trouver... il a lancé vraiment la fourrure démocratique avec des petits prix, des couleurs pop et aussi la collaboration avec les grandes marques de luxe. Et moi, quand je suis arrivé... bien, je dirais que au début, je me suis formé très peu de temps.
Vous étiez dans le négoce au départ, c'est
ça ? Au départ, c'était toujours le négoce des matières premières. Et puis, j'avais quand même une idée de lancer une marque, parce que c'était ce qui m'amusait pour justement me démarquer des générations précédentes. Et mon père décédé très jeune, donc je me suis retrouvé extrêmement jeune avec la possibilité de lancer ma marque.
En 1980.
En 1980.
Vous aviez quel âge ?
Ben, j'avais 30 ans. Et l'opportunité a été assez incroyable puisque à l'époque, j'ai rencontré Thierry Mugler et il m'a demandé de lancer une marque en fourrure. Et je me suis dit, ben, c'est quand même une opportunité incroyable puisque à l'époque, c'était le jeune créateur le plus talentueux de sa génération. Et le plus, en tout cas, le plus médiatiquement attendu. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire lancer Yves Salomon en même temps.
C'est devenu Maison Yves Salomon.
Oui, opération que j'ai faite avec mon frère au départ et tout seul après, voilà.
Et dans les années 90, si on regarde les revues de l'époque, toutes les tops portaient du Yves Salomon.
Oui, enfin bon, je dirais que j'avais une idée fixe. C'était il faut comprendre que dans les années 80 la fourrure a passé par un creux incroyable et c'était dû au fait que les manteaux étaient ennuyeux, démodés, lourds,
classiques
et donc c'était vraiment pas ma vision de la fourrure et je me suis dit comment on peut faire autrement, exactement le contraire, c'est-à-dire se raccrocher complètement à la mode, avoir des manteaux de plus en plus légers et qu'une femme ait envie de s'approprier ce vêtement au quotidien et que ça ne soit pas un objet exceptionnel pour des événements exceptionnels. Donc j'ai essayé dans mes collections et depuis le départ de toujours intégrer une partie de création, de créativité qui fasse que le décalage soit toujours présent.
J'imagine que vous êtes à fond sur la recherche et le développement.
Et donc, bon, pour arriver à ça, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est vraiment d'être proche de la mode et de bien suivre ce qui se passe et d'essayer de coller le plus possible aux tendances. Et puis aussi, parce que c'est un produit incroyablement technique, d'avoir un outil de recherche et développement que j'ai créé assez tôt avec l'arrivée de très jeunes stylistes et stagiaires que je prenais à la sortie de l'école et qui venaient nous apporter leur créativité et confronter leurs idées et leur énergie avec celles des techniciens plus aguerris qui étaient dans nos ateliers.
Alors justement, j'ai eu la chance de pouvoir filmer vos ateliers et rencontrer vos artisans. Et je tiens à préciser aussi que tout est fabriqué à Paris, au cœur de Paris. Et vous avez un souci vraiment de transmission. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent chez vous depuis des années, mais vous avez aussi tout un programme avec les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ben, oui, je me suis aperçu que, en fait, c'est un métier qui est tellement un artisanat de niche qu'on ne trouvait plus personne. Et donc, je me suis dit que le seul moyen d'avoir des collaborateurs formés, c'était de les prendre à la sortie de l'école et de les confronter avec nos techniciens qui les formaient. Et ça, c'est une approche que j'ai eue depuis pratiquement le départ. Et du coup, il y a deux résultats. Le premier, c'est qu'on a une équipe très jeune encore actuellement. Et donc,
de tous les âges.
Oui, de tous les âges. Mais je dirais que la majorité, c'est une équipe jeune et que les gens qui sont un peu plus âgés, ce sont des gens qui ont été formés dans l'entreprise et qui sont complètement opérationnels, qui sont complètement pluggés sur cette culture de création, de se remettre en question et d'avoir des jeunes qui viennent à nouveau apporter leur énergie et tout remettre en cause. Donc cette culture de remise en cause permanente nous a permis de faire des virages assez importants tout au long de l'histoire de l'entreprise.
Tout en gardant, donc, comme je disais, la transmission d'un vrai savoir-faire.
Ah oui, tout à fait, puisque le cœur du débat, c'est comment on peut transmettre, comment on peut former, comment on peut créer de nouveaux artisans ou de nouveaux stylistes.
Alors, qui dit fourrure, souvent c'est assez controversé. Il faut voir tout ce qui se passe avec la PETA. Vous avez créé le Ressource Pacte, enfin écrit le Ressource Pacte en janvier 2020. Et on va le reprendre un par un et vous allez nous expliquer. Déjà, c'est une baisse draconienne de la production de fourrure animale.
Depuis des années, bien avant le Ressource Pacte, j'étais obsédé par l'idée qu'il y avait une surproduction de fourrure, ce qui crée une sorte de démocratisation excessive du produit, contre laquelle je me suis toujours élevé. Et pour moi, la fourrure, ça doit être un produit de niche, un produit d'excellence et un produit d'exception, et pas un produit de la rue, au sens quantité, production de masse. Donc pour moi, la seule solution, c'était déjà de réduire la production de fourrure. Et ça, je me suis toujours battu sur ce point, d'où ce premier point du Ressource Pacte dont le message principal, c'est que nous luttons pour la réduction de la production. Et donc, cette réduction, elle a eu lieu, en fait. Et elle a lieu actuellement, et j'en suis extrêmement content.
Et pour obtenir cette baisse draconienne, deuxième point, vous utilisez la fourrure existante.
Tout à fait. Il faut savoir que pour avoir un manteau parfait, il faut que les couleurs, l'aspect, l'épaisseur soient complètement homogènes. Et donc, on a beaucoup de pertes, de chutes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, et c'est ça le challenge de nos ateliers et de nos équipes jeunes, c'est de se dire, voilà, ces peaux ou ces matières qui ne sont pas utilisées, il faut les utiliser, les recycler. Et on a créé cette ligne qui s'appelle Pieces, qui a pour but de recycler toutes ces matières qui ne sont pas utilisées ou pas utilisables.
Et vous avez aussi pour projet de créer un grand atelier de recyclage dédié justement pour offrir une seconde vie, aux anciennes fourrures des clientes.
Tout à fait. Donc, la fourrure, c'est le seul produit de la mode qui est recyclable par nature. C'est-à-dire qu'une fourrure peut toujours être recyclée, elle peut toujours être retaillée, recoupée dans un modèle différent, nouveau, plus mode, plus actuel. Et donc, euh, Depuis des années, je suis en train de réfléchir comment, puisqu'il y a beaucoup de manteaux qui ont été vendus pendant toutes ces années sur le marché, comment trouver un système pour recycler systématiquement ces manteaux. Bon, donc nous travaillons et nous espérons aboutir assez rapidement à un beau projet de recyclage.
J'ai votre chef d'atelier qui m'a montré comment, les étapes, comment passer d'un manteau, c'était un manteau en vison je crois,
ouais,
transformé en petit blouson. C'est absolument incroyable.
Et quand le blouson que vous avez vu, c'est un blouson de la collection actuelle, et donc on voit qu'avec un manteau qui a 40 ans ou 30 ans ou 20 ans, qui est importable, que plus personne n'a envie de porter, on peut arriver à le moderniser dans un modèle d'aujourd'hui et qu'une femme ou un homme ait envie de porter.
Alors, autre point aussi, le souci de transparence.
Le souci de transparence, il y a eu tellement de mensonges et tellement d'éléments faux qui ont été répandus sur la fourrure que je crois que la seule possibilité, c'est d'être 100% transparent et d'expliquer toute la chaîne. Donc, nous avons aujourd'hui des organismes indépendants qui vont vérifier dans les fermes que les conditions animales sont au top niveau et qui nous permettent aussi, et ça sera un label qui va être lancé dans les mois qui viennent, qui s'appelle Furmark, qui permettra avec un code barre de remonter jusqu'à la ferme avec toutes les étapes de fabrication.
Parce que vous êtes engagé à boycotter les fermes qui ne respectent pas le bien-être animal.
Bon, évidemment, parce que les fermes qui ne respectent pas le bien-être animal sont extrêmement néfastes à l'avenir de notre profession. Et donc, l'idée, c'est qu'elles disparaissent. Et on a mis au point des systèmes qui pratiquement les empêchent de commercialiser leur production si elles n'ont pas un label et si elles ne sont pas certifiées par des organismes vétérinaires indépendants.
Vous engagez aussi à protéger les espèces menacées. Alors, lesquelles ?
Écoutez, depuis l'origine, c'est-à-dire, je dirais 1972, il y a la Convention de Washington qui protège les espèces en danger. Et donc, nous sommes un des promoteurs de cette convention avec plein d'autres parties et des gouvernements. Je dirais que maintenant, pratiquement tous les pays l'appliquent. Et il est évident que nous-mêmes sommes en pointe parce que bon, c'est vital que les espèces soient protégées aujourd'hui.
Vous participez aussi à la protection des populations autochtones pour lesquelles la fourrure est une source de revenus irremplaçable.
Il faut savoir que dans le Grand Nord canadien, les Inuits ou les Esquimaux vivent de la commercialisation des fourrures qui sont dans ces espaces-là. Donc, notamment, il y a un certain nombre d'espèces. Et interdire à ces gens-là de pouvoir commercialiser ces animaux, c'est simplement leur retirer leur moyen de subsistance et c'est les condamner à la disparition. Donc, bien que nous, en tant que société Yves Salomon, nous n'utilisons pas les fourrures provenant de ce Grand Nord, parce qu'elles ne remplissent pas des conditions de qualité elles ne correspondent pas à notre cahier des charges en termes de style, mais par ailleurs, je pense qu'il faut laisser la liberté à ces gens-là de pouvoir vivre.
Mais vous les soutenez quand même.
On les soutient à fond.
Alors, et le dernier, c'est le respect des normes environnementales.
Bon, aujourd'hui, c'est pas un secret que toutes les sociétés dans le domaine de la mode sont soumises à des contraintes extrêmement strictes. Et nous-mêmes appliquons dans notre entreprise toutes les méthodes possibles et imaginables de réduction de l'énergie. Et nous sommes même, en pointe pour appliquer toutes ces méthodes et bien sûr donner des conditions de travail à nos ouvriers.
Ça, c'est une politique RSE ?
C'est la politique RSE qui va être, je pense, dans les années qui viennent, quasiment obligatoire pour tout le monde, mais autant le faire
rapidement
le plus rapidement possible.
Alors, question qui doit revenir souvent, mais pourquoi n'utilisez-vous pas de la fausse fourrure, Monsieur Yves Salomon ?
Alors, c'est une excellente question et nous utilisons de la fausse fourrure quand elle est d'origine naturelle, à savoir de la laine, Mais par contre, on s'interdit, pour des raisons éthiques, d'utiliser la fausse fourrure d'origine plastique, pétrole.
Pour l'environnement, justement.
Pour protéger, justement, l'environnement. Parce que la vraie écologie, c'est d'utiliser des produits naturels et de ne pas défigurer les océans et la planète. Et donc, je pense, si on veut être cohérent, et je souhaite l'être vraiment de manière absolue, je pense qu'on peut utiliser la fourrure, on peut utiliser la fausse fourrure naturelle, mais je ne pense pas raisonnable d'utiliser la fausse fourrure synthétique.
Alors, vous avez aussi créé, on va glisser sur votre autre partie, le prêt-à-porter. Donc, deux collections par an, plus de l'outwear. Vous faites aussi des doudounes de ski, des manteaux, des pulls. Toujours avec le même souci de qualité, de sourcing, de matière noble.
Bon.
Pourquoi ce virage vers le prêt-à-porter et depuis quand ?
Bah, écoutez, depuis le départ, l'obsession, c'était d'être au cœur de la mode. Bon, en 2018, il y a eu une annonce, ou en 2019, je ne me souviens plus exactement, une annonce de certains grands groupes d'arrêter la fourrure. Et on s'est dit, bon, la fourrure va, dans les années qui viennent, poser problème, sachant que c'était presque un monoproduit chez nous. Donc, l'idée immédiate a été de transformer la marque Yves Salomon en marque de luxe et donc de développer un prêt-à-porter avec du cachemire, du cuir, de la maille.
De la soie aussi, j'ai
de
vu
la
ça.
Soie, des polonais et de créer des silhouettes entières, des silhouettes Yves Salomon qui correspondent à ce que nous aimerions transmettre à nos consommateurs.
Vous m'aviez expliqué aussi qu'il y avait un souci purement économique, c'est-à-dire qu'en hiver, en été, pardon, les gens n'achètent pas de fourrure.
Et donc, le souci économique était exactement que l'été, on ne vendait pas de fourrure. Donc, c'est bien, bien évident qu'étant une marque de luxe, on veut vivre sur deux saisons. Et l'été, l'hiver. Et donc, il a fallu développer une collection d'été. Ça a été fait depuis 2-3 ans. Et cette collection est celle qui, je dirais, aujourd'hui, progresse le mieux. Voilà.
Où puisez-vous votre inspiration pour ce prêt-à-porter ?
Moi, je pense que la mode doit être le reflet, la mode doit être le reflet de ce que l'on voit dans la rue, bon, premièrement. Et deuxièmement, aussi de transmettre ce qu'on a au fond de soi-même. Et au fond, moi, ce qui me passionne, c'est le jeu des couleurs, c'est les palettes et des mélanges parfois improbables ou parfois harmonieux. Donc, on a une culture de couleurs et aussi, il y a une nécessité que ce que nous créons, ce soit des vêtements qui soient à la fois portables, confortables, qualitatifs, modernes. Et donc, de mettre tout ça ensemble, eh bien, c'est ce que l'on voit aussi dans la rue. Voilà.
J'aime bien quand vous dites « le cuir est traité comme un tissu ».
Oui, alors, donc nous avons sourcé avec beaucoup et mis au point avec un fabricant un cuir qui fait 1 mm ou 2. Donc, c'est un tissu. On peut donc, grâce à ça, faire des formes qui sont des formes de tissu, de prêt-à-porter, et avec une fluidité.
Faire une jupe, par exemple.
Une jupe, un pantalon. Ça nous permet de créer des formes et de retirer au cuir un côté un peu rigide, lourd, qu'il pourrait avoir, et de justement l'intégrer parfaitement dans une ligne de prêt-à-porter comme du tissu.
Vous souhaitez allier luxe et performance ?
Bien oui, parce que si on fait un peu d'histoire sur notre marque, bon, après avoir lancé des lignes, des collections de fourrures, on a eu l'idée. C'est en 2005, après avoir j'ai visité un endroit où il y avait des vêtements en tissu militaire qui étaient des vêtements de l'armée française, et je me suis dit que c'était des vêtements que j'ai trouvé incroyablement beaux
et solides,
et je me suis dit, on va mettre de la fourrure avec, Et c'est comme ça qu'on a lancé cette ligne de parka, de doudoune, et qui est la résultante de cette première démarche, qui était de mélanger un vêtement extrêmement utilitaire, puisqu'il a servi à l'armée française, puisque c'était des fripes, et de mélanger avec le produit le plus luxueux qui soit, la fourrure.
C'est donc un recyclage chic.
C'est un recyclage chic, et donc ça a été le point de départ de cette ligne de d'outerwear, et on a eu toujours par la suite l'idée d'utiliser les meilleures matières, les matières les plus performantes, les plus confortables, les plus chaudes, et je dirais qu'on peut pratiquement aller au pôle Nord avec nos produits. Et c'est presque un inconvénient, je dirais, qu'ils tiennent trop chaud. Voilà.
Mais même vos pulls sont extraordinaires. La maille est extraordinaire.
Ben, oui, c'est toujours la même démarche de trouver des produits qualitativement performants et d'exprimer cette volonté d'être une marque de luxe.
Quel est votre avis sur la mode actuelle ?
C'est une question extrêmement compliquée. Bon,
est-ce qu'il y aurait pas, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de marques, trop de marques, pas assez de marques, trop d'innovation, pas assez d'innovation?
Bon, moi, je pense que dans un premier temps, il y a beaucoup trop de marques et je pense que c'est totalement inutile. Je regrette que malgré tout, avec toutes ces marques, malgré tout, la place qui est réservée aux jeunes créateurs est trop faible. Pardon. Donc nous cherchons, nous, autant que faire se peut, aider ces jeunes créateurs à faire leur collection et nous participons à l'élaboration de concours de créateurs. Et
vous les aidez
On les aide à fabriquer leur collection et on fait des collaborations avec des écoles pour aussi les tout jeunes créateurs, les aider à comprendre ce que c'est que la création et l'artisanat.
La mode doit-elle devenir plus raisonnable ?
Ça serait horriblement ennuyeux. Quoi.
Donc pour vous, c'est vive la couleur, la fantaisie.
Oui, il faut que la mode, ça soit vraiment... Oui, il y a quelque chose qui me gêne terriblement dans notre société aujourd'hui, c'est la bien-pensance. Donc je pense qu'il faut être libre, il faut laisser aux créateurs les moyens de créer... Et je pense qu'il ne faut pas être ennuyeux. Quoi. C'est vraiment, on a besoin d'énergie et de gaieté, je pense.
Surtout en ce moment.
C'est vital en ce moment, j'allais le dire. Voilà.
Quelle est votre définition d'élégance ?
Bah, pour moi, l'élégance, c'est justement une attitude qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quelque chose qui est là, mais qui n'est pas apparent, mais qu'on sent. Voilà.
Et qu'on ne remarque pas.
Et qu'on ne remarque pas.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la maison Yves Salomon dans les années à venir ? De continuer à progresser ? Que votre fils Thomas reprenne les rênes ?
Bon, mon fils Thomas travaille avec moi depuis 20 ans, donc il est tout à fait partie prenante de notre société et de notre marque. Et bien sûr, la transmission, c'est un élément fondamental. Mais je pense que c'est de continuer dans la voie qui a été tracée, c'est-à-dire celle de la recherche, de la qualité et d'une marque de confort et de bien-être.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.